nous allons commencer ce dernier enseignement. Et je vous invite à avoir devant vous la première lettre de Jean. J'imagine que vous l'avez tous devant vos yeux. Et puis il y a une deuxième chose, je crois que s'habituer à la parole de Dieu et la faire sienne, comme disait Monseigneur, ça nous aide beaucoup vraiment à devenir amis de Jésus. Parce que l'amitié avec Jésus, c'est pareil que l'amitié humaine. Si tu as ta copine aux États-Unis, qu'elle t'aime beaucoup et tu l'aimes beaucoup, et vous ne l'envoyez pas un SMS de temps en temps, non? Au moins lui dire bonjour, ou parler en Skype à minuit, elle va trouver un Américain blond, grand, des yeux bleus, non? Et toi, tu risques de trouver une bourguignonne, non? Voilà. Pourquoi j'ai dit ça, non? C'est toujours de l'humour, mais ce n'est pas que de l'humour. C'est-à-dire que l'habitude d'accompagner Jésus, de le lire, de comprendre. Saint Jérôme disait que celui qui ne connaît pas les Écritures ne connaît pas Jésus. Voilà. Alors, on est première lettre de Jean. Deuxième chose, hier, je vous ai donné quelques clés pour la deuxième étape. Quelle est la deuxième étape? Ça commence quand? Oh, toute l'après-midi à parler de ça, et vous vous souvenez? Ah oui, au moins on a resté. Ça c'est le verset 22, qui c'est essentiel du chapitre 3, dans lequel on parle d'être agréable à Jésus. Et ça commence où? Au chapitre 3, verset 1, ça finit où? Chapitre 4, verset 10. OK? Alors, j'espère que cette nuit, vous l'avez lu, non? En rentrant de notre veillée à la visitation avec tous les saints et saintes, non? Vous avez eu le temps tranquille jusqu'à 6 heures du matin, non? Comme Saint-Dominique, passé toute la nuit en train de prier, non? Voilà. Donc, vous avez lu tous le troisième chapitre de Saint-Jean, de la première lettre. Celui qui dit pas la vérité, il est dans le péché, non? Voilà. Non, pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'effectivement, aujourd'hui, le programme était lire la troisième étape qui commence au verset 11 du chapitre 4 et qui finit dans le dernier verset de la lettre, le dernier verset du chapitre 5. Voilà. Mais comme hier, je n'ai fait que donner les lignes fondamentales de la deuxième étape, je voudrais lire avec vous un petit peu ça. Les lire avec vous. Hein? On revient à la deuxième étape, non parce que la troisième soit moins intéressante, mais parce que c'est en lisant qu'on comprend ce que je vous disais hier. Voyez? Alors, avant même d'entrer dans ce rappel, je vous invite simplement, parce qu'en passant, j'ai vu que ce que nous vivons ces jours-ci s'appelle Paradise Avignon. Donc Avignon, c'est un paradis, nous le savions déjà, non? Mais ici on l'a appris encore davantage. Non? Mais moi, avec ce mot Paradise Avignon, je me suis rappelé d'un grand ami que j'aime beaucoup, qui s'appelle Thomas More. Même s'il est anglais, il n'est pas mauvais, non? Voilà. Parce qu'ils disent que les Français et les Anglais, ce n'est pas toujours la bonne entente, non? Voilà. Et Thomas More, pourquoi je parle de lui? Parce que quand il était laïc. C'est important déjà ça. Hein? Il n'était pas un prêtre déjà du club de gens de l'Église. Quoi. C'était un laïc normal et courant, papa de famille, en plus remarié, ça arrive, c'est parce que sa femme était veuve. Hein? Voilà. Et pas sa femme, non, c'est lui qui était veuve. Ah, vous, heureusement que je me suis réveillé, sinon vous continuez tranquille. Je vois bien les degrés de sommeil qui vous affectent, non? Donc, voilà. Et du coup, il était veuf. Et du coup, la deuxième femme, il s'est marié pour aider à élever ses enfants. Et elle avait un caractère terrible, il semble, non? Donc, il avait une souffrance supplémentaire. Non, voilà. C'est très intéressant, ça, hein, parce que la vie courante, si j'avais passé Marie Kégé, je serais une sainte. Si j'avais pas ces femmes Kégé, oh là là, je serais dans la paix du paradis. Non, si j'avais pas ces prêtres de la paroisse à côté, non, je serais un prêtre heureux. Non, si j'avais, toujours on a quelqu'un qui a le problème qui nous empêche d'être. Non. Alors, Thomas More, il était un laïc, il avait une femme, selon tous ses écrits, la deuxième, qui était vraiment difficile à vivre, avec un caractère assez conséquent. Non. Et alors, du coup, et il était aussi un homme très présent dans la société. Ce n'est pas plané, non, tu vas te faire des retraites comme ça, après tu es dans le quatrième ciel et tu t'occupes pas de ce qui se passe sur la terre. Ce n'était pas son cas. Non. Il était en plus un grand philosophe. J'aime beaucoup parce que quand j'étudiais les sciences économiques, quand j'étais jeune, mes profs étaient marxistes et alors ils nous expliquaient les origines du socialisme. Et alors, Engels, hein, pour si quelqu'un veut savoir qui est ce monsieur, non? Et alors, dans ses origines du socialisme, il passe en gros machin à parler d'un monsieur qui s'appelait Thomas More. Bien sûr qu'il évite d'omettre qu'il était catholique, qu'il était saint, qu'il était martyr et tout ça. Simplement, Thomas More, c'est un des plus grands précurseurs du socialisme. Il dit, oh là là, ça c'est un saint, oui, non? Mais pourquoi? Parce qu'il était pleinement conscient que vivre l'Évangile avait des conséquences sociales. Il a écrit un bouquin qui s'appelle Utopia, que c'est une merveille, ce qu'il dit de comment nous devions vivre les uns et les autres. Même au prêtre, il leur envoie un bon machin, non? Parce qu'il dit, parfois il se met au-dessus de tous les autres, non? Et au lieu de servir le cœur pour des relations nouvelles, ils vivent tout le contraire, ils asservissent les gens qui sont dans leur machin. Ça, c'est Thomas More qui disait ça, comme il est saint, no? Je peux les citer, ok? Mais pourquoi c'est important, ça? Parce que cet homme, qui est mort, bien sûr, décapité à la Tour de Londres, hein, vous le savez, ça, et il a dû faire face à beaucoup de problèmes, parce que l'Église d'Angleterre à l'époque n'était pas trop claire. Non, ça arrive parfois que l'Église n'est pas claire. Aussi, hein. Et alors, n'était pas trop claire. Lui, et c'est ce que je voulais dire, à la Tour de Londres, il fait des méditations dans un bouquin qui s'appelle « De Tristitia Christi », il écrivait en latin, hein, que c'est impressionnant. Dans la première page, ça va nous aider à cette deuxième étape et troisième qu'on va effleurer aujourd'hui. Dans la première page, déjà de sa méditation, c'est il fait quand il était à la Tour de Londres, hein, à la prison de la Tour de Londres, juste avant d'être décapité, il écrivait des phrases comme ça. Il faisait la méditation de la passion de Jésus. Et vous savez qu'après la scène, Jésus et ses disciples, après avoir chanté les Hallel, c'est-à-dire les psaumes, hein, de la louange du Seigneur, après avoir chanté le grand Hallel, il descend par le torrent de Cédron, il entre dans les jardins des Oliviers. Et alors, il commence à méditer, ça c'est la première page de la méditation de la passion de Jésus, il était en jardin. Et lui, immédiatement, fait la relation entre les jardins des Oliviers et les paradis d'Avignon. C'est vrai, hein? Il y avait un jardin. C'est un jardin où Jésus plongeait dans les sources mêmes de l'amour pour devenir amour. Et il dit une phrase que je la garde toujours dans la tête parce que ça m'a fait un grand bien de comprendre, est-ce que la lettre de Saint Jean veut nous dire. Il disait, si ma mort, qu'il savait que déjà on allait lui couper la tête. Hein? Et avec humour, hein? C'est très beau tout à l'heure, on nous disait que, Père Benoît, que donner avec joie, c'est très grand. Non? Alors, c'est différent donner avec joie que donner avec... Oh là là, oh là là, oh là là, hein? Voilà, donc donner avec joie, c'est très grand. Et alors, il disait une chose impressionnante, parce que dans son monde. Il avait un humour très grand. Il demandait au Seigneur le bon humour. Et vous savez que le Seigneur lui a donné ça jusqu'à la fin. Parce que quand il devait monter à l'échafaudage qu'on lui a coupé la tête, il lui a dit au bourreau, il était déjà un peu grand, il lui disait, aidez-moi à monter, de descendre, je m'occupe tout seul. C'est la dernière phrase qu'il a dit. On joue pas, non? On fait des blagues, on fait pas des blagues quand on va te couper la tête. Sauf si tu es, et c'est ça ce qu'il disait dans ses méditations de Gethsemane à la Tour de Londres, il disait, si ma vie donnée pouvait servir pour que moi et mon ami Henri VIII, c'est celui qui l'a décapité, moi et mon ami Henri VIII, nous puissions nous promener ensemble par les allées du paradis, ça vaut la peine. C'est un laïc, hein? Papa de famille, normal, problème quotidien, banque, l'échec impayé, tout ça, hein? Pourquoi j'ai dit ça? Parce que on vient à Paris le Monial pas pour rêver, mais pour habiter, apprivoiser, nous rendre sensibles à une réalité qui touche la vie quotidienne. Donc, ces étapes dont on parle, ce n'est pas simplement un petit exercice mental de voir comment Saint Jean, papa, c'est des chemins concrets que le Seigneur veut nous donner. C'est pour ça que je voudrais, avec vous, encore relire les textes de la deuxième étape, même si on ne va pas voir complètement la troisième, pour apprivoiser ces chemins. Parce qu'effectivement, quand on commence à l'apprivoiser, c'est vraiment un paradis à Avignon. Je lui remercie à Benoît Guéda, ce nom, ce titre qu'il lui a donné à notre retraite. Paradis à Avignon. Parce qu'effectivement, est-il possible de vivre une joie réelle en traversant les réactions qui me provoque l'autre et entrer dans un amour qui dépasse le réactif? Vous comprenez le réactif? On te met un doigt dans l'œil, tu sautes l'autre œil, non? Tu sautes les poignets, non? On te calomnie et tu en fais trois davantage, non? On te blesse et tu es blessé toute la journée avec une dépression tellement grande qu'on n'a plus moyen de fonctionner. Peut-on dépasser ça? Voyez? Parce que je ne sais pas le ciel qu'est-ce qu'on arrivera, mais quand tu commences à vivre comme un jardin du paradis, les relations quotidiennes de nos histoires, peut-être quelque chose du royaume de Dieu va nous être donné. On se prépare, comme disait Monseigneur déjà hier, on se prépare pour l'éternité, mais on se prépare en la vivant, l'éternité. Ça, c'est le premier verset de ces premières lettres de Jean, chapitre 3, verset 1 à 3. Il ne s'est pas encore manifesté, mais nous sommes dans l'apprivoisement qui nous permettra d'inaugurer ces merveilles. Et quand on se conçoit là-dedans, on voit que le Seigneur agit avec nous. Quand on décroche, on n'arrive jamais. Ça, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le verset 3 du chapitre 3. Vous l'avez lu, non? Le chapitre 3 du verset 3. Le verset 3 du chapitre 3 dit, celui qui a cette espérance en lui devient pur, comme lui-même est pur. Autrement dit, si tu n'espères pas arriver au paradis de Thomas More, tu n'y arriveras pas. Et il restera toujours un courroux dans ton intérieur qui s'appelle colère, violence primordiale, énervement, rivalité, jalousie, etc., que ça n'arrêtera jamais de t'habiter. Si tu as cette espérance, ne signifie pas que tu vis déjà tout ça. Mais ne signifie pas que tu le vis déjà, mais tu espères. Et l'espérance n'est pas la même chose que les expectatives humaines. L'espérance, la virtu théologale de l'espérance, nous disait le pape Émérite dans la lettre qu'il vous a écrite, qui s'appelait Spes Salvi, Les Espagnols, nous avons toujours un problème avec ces mots français qui commencent par S, non? Parce qu'on ne sait pas les prononcer sans la E avant, non? Et comme les gens se moquent de moi toujours quand je l'ai dit, je vous l'avance déjà pour dire que je suis conscient que vous vous moquez, mais je ne sais pas faire autrement, non? Spe salvi, ok? Et alors, dans cette lettre, le pape dit une chose pour moi merveilleuse, qu'il y a quelque chose à faire pour comprendre ce verset, c'est que l'espérance fonctionne comme ça. Quand tu crois vraiment que le Seigneur, par la Pâque, t'a déjà donné ce vers lequel tu vas, le paradis dont parle Thomas More, en cours de route, tu perçois pas seulement que cela commence à arriver, parce qu'il nous accompagne, hein, mais que cela correspond au plus profond de ce que nous sommes. Ça, c'est la vraie paix. Ce sont des choses qui viennent avec l'espérance. Une, que quand je tends vers ça, je suis accompagné par le Seigneur, et même imperceptiblement, il m'accompagne pour arriver. Une, deux, ça c'est Benoît XVI, il arrive une deuxième chose, que c'est que je découvre que ça correspond au plus profond de ce que je suis. On est fait pour ça. Et on découvre que les violences disparaissent. Et on découvre que notre cœur commence à se dilater, pas par ma propre volonté simplement, mais parce qu'en m'orientant vers, je suis rejoint par celui qui ne nous abandonne jamais et qui nous accompagne à aller vers ce chemin. Voyez? Et alors, ça continue. Hier, on parlait des versets suivants. No? C'est très intéressant parce que les versets 4 à 10, j'ai commencé à déjà les effleurer, vous les avez devant vous. Celui qui commet le péché transgresse la loi, car le péché, c'est la transgression. Alors, du coup, Saint Jean nous renvoie au péché. Et hier, on a fini, vous vous souvenez, avec cette retraite dont je vous parlais à Ezo, où, à la fin de la retraite, je commençais à percevoir que j'ai crucifié Jésus, pas seulement dans les gros machins, mais dans les petits machins. Et je me résistais à ça. Mais le fleuve de vie qui m'est arrivé lorsque j'ai accepté ça est impressionnant. Parce que Jésus est beaucoup plus proche de nous de ce que nous pouvons imaginer. Mais quand je ne reconnais pas ce qui se passe dans la vie de Jésus en relation à ma vie, je reste dans ce brouillard dont la dernière intervention de la louange ce matin nous parlait. Hein? Brouillard, brouillard, brouillard. Seulement les pilotes, poum, ils traversent, non? Et t'as le soleil dessus. Mais on peut rester dans le brouillard tout le temps. Et le Seigneur nous dit, non, c'est très important que vous reconnaissiez jusqu'où vous êtes aimé par Jésus. Tout ce que vous vivez lui implique. Tout ce que nous vivons, même dans notre cœur, l'implique. On est infiniment plus proche de nous, il est infiniment plus proche de nous de ce que nous y sommes. Et alors, dans ce mystère pascal, se réalise progressivement ce paradis dont Thomas More se faisait écho. Il se réalise vraiment. Et on le voit parce que le premier point de cette deuxième étape par rapport au péché, c'est qu'il a pris sur lui nos fautes, Isaïe 53, ce qu'il méditait à Gethsemane, entrer dans la prière de Jésus à Gethsemane. Le pape Jean-Paul II, il nous écrivait une lettre aux prêtres tous les ans. Et je vous avoue que je ne les ai pas toutes lues, non? Même si elles étaient passionnantes. Mais la première qu'il m'a écrite en tant que prêtre, oui, non? J'étais ordonné en janvier 87 et en avril, il nous a écrit la lettre au prêtre, le Jeudi Saint. Non? Et cette année, 87, était la prière du prêtre. À moi, ça m'impressionnait vraiment. Parce que cette lettre disait que le prêtre qui est celui qui célèbre l'Eucharistie, c'est-à-dire qui participe au sacrifice du Seigneur, doit nourrir sa prière à Gethsemane. Et il disait pourquoi? Parce qu'en réalité, il dit Jésus, dans la scène, il viver sacramentalment les dons per tota l'humanitat. Mais à Gethsemane, il réalisait existentiellement ses dons. Autrement dit, tu n'as pas la joie de donner la vie pour ton ami Henri VIII comme ça. Tu entres dans cette joie à fur et à mesure que ton cœur commence à participer de ce que le Père par amour m'invite à vivre. Ne vous scandalisez pas, hein? Ça semble un peu trop loin. Mais vous verrez que c'est la dynamique normale quand on a l'espérance en cela que le Seigneur vient nous rejoindre. Ce que Thérèse de l'Enfant Jésus disait, non? Le Seigneur nous commande, pas simplement nous souhaite, non? Ou nous dit, oui, faites ce que vous pouvez, non? Nous commande, le Seigneur nous commande d'aimer avec son même amour, celui de donner la vie pour nos amis, parce qu'il veut aimer en nous. Ça, c'est là, et aux antipodes, voir comment je vais. Oh, ça c'est trop, non? Quand j'ai dit ça c'est trop et je décroche, l'amour de Jésus reste en suspension. Quand j'ai dit ça c'est trop, parce que c'est trop, évidemment, pour les hommes impossible, mais je m'ouvre à lui, il y a la dynamique de Jésus qui me rejoint et qui me fait avancer. Et alors là, il a pris nos péchés. Deuxième point, c'est que je vous disais que. Celui qui est dans le Christ ne pêche plus, dit Saint Jean dans les versets suivants. Celui qui est dans le Christ ne pêche plus. Pourquoi Saint Jean dit ça? Parce qu'effectivement, et si hier, dans la première étape, ou avant-hier, on nous disait que celui qui dit qu'il n'a pas de péché, et un menteur, aujourd'hui dit, fais un pas de plus. Celui qui est du Christ ne pêche plus. Parce qu'on ne peut pas continuer l'amitié avec Jésus et pécher. Ça, c'est tellement radical. Oh, wow! Si jamais cela était possible, encore l'espérance. Si je n'ai pas l'espérance d'arrêter de faire des péchés, j'avance pas. Si j'ai l'espérance, c'est ce qu'on nous demande quand on fait la confession, hein? Acte de contrition, non? Le prêtre, non? Mais qu'est-ce que c'est? Non, je pose l'acte, la volonté de ne plus pécher. Parce que l'amour du Seigneur en moi a la puissance de me rendre vrai, authentique. Ah non, mais ça c'est un cours de rêve. Non, 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 non. Quand je pars déjà avec l'impression que je vais continuer, c'est pour ça que comment on traite les péchés dans le monde d'aujourd'hui, dans l'Église d'aujourd'hui, et dans tous ces thèmes si difficiles que partout le monde ecclésiastique aujourd'hui est pris, si on n'a plus l'horizon d'entrer dans la vérité de ce que Jésus nous dit, on empêche l'action de la grâce. C'est pour cela que est très important et très délicat ça, non? Et après, ça continue. Celui qui pêche est du diable. Celui qui est dans le Christ ne pêche plus. Pourquoi? Parce que l'implication que le Seigneur a avec nous est beaucoup plus puissante que ce que nous lui concédons. Beaucoup plus puissante. Il a la capacité de faire de ma vie un cœur semblable au sien. Cœur sacré de Jésus, que mon cœur soit semblable au tien. Mais c'est ça, est vrai. Et alors là, il y a deux ou trois phrases que je voudrais dire en passant pour passer au deuxième point. Non? Et c'est... Dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 8, Jésus a passé la nuit au mont des Oliviers. Le chapitre 8 de Saint Jean, pas la première lettre. Hein? Celui qui a écrit la lettre avait écrit l'évangile. Donc il y a des relations très belles qui permettent d'avancer. Il dit, passa toute la nuit au mont des Oliviers dans la prière de Dieu. Et à l'aurore, à l'aube, avant l'aube, il vient enseigner au temple. Donc là, ils enseignaient à 4 heures du matin. Non, et ils avaient du public même à 4 heures du matin, parce que c'était à l'aube, avant l'aurore, de même que la résurrection. C'est un signe de Saint Jean dont Monseigneur nous faisait école l'autre jour. Quand on lit vraiment, c'était le même cadre que la résurrection, à l'aube. Et quand il enseignait, les pharisiens lui présentent une femme qui était prise en flagrant délit d'adultère. Pourquoi c'est très intéressant ce texte? Parce que les gens qui lisent Saint Jean disent une chose merveilleuse. Quand, après avoir écrit par terre, et les autres s'en vont, et la pierre, personne la jette, et tout ça, et que vous vous souvenez de ça. Hein? Après ça, il lui dit à la femme, gunai, en grec, autrement dit, femme, la même chose que Jésus dit de sa mère, femme, et la même chose qu'Adam dit d'Ève au paradis, paradise Avignon. Gunai, femme. Épouse. Autrement dit, Jésus lui dit, pas seulement ne pêche plus, parce que tu entres dans les rapports cœur à cœur, époux-épouse avec moi. Et ça, ce n'est pas simplement pour les célibataires. Toute chrétienne et toute mariée, lorsqu'il entre dans cette relation d'amour cœur à cœur avec Jésus, on commence à dépasser le péché et à entrer dans une liberté qui a la saveur de la sienne. C'est ça ce que Saint Jean dit dans cette deuxième étape. Pouvons-nous la vivre? Oui, guinaï. Mais tu ne dis pas à une femme adultère, guinaï, non? Oser, oui. Et Jésus s'est à nouveau osé. Qu'il se marie avec la femme de prostitution que je suis, moi, et m'amène progressivement à un rapport d'amitié vrai qui nourrit mon cœur. N'oubliez jamais, Élie, j'ai communié pour manger Jésus à mon cœur. Et cela nous renvoie à une merveille que c'est celle que le Seigneur veut nous donner. Pourquoi celui qui avec Jésus ne pêche plus, il dit, Saint Jean, le contraire immédiatement. Et celui qui pêche est du diable, est du diabolon. Autrement dit, il reste dans son cœur, dans l'autel de son cœur, en adorant encore d'autres dieux ou d'autres machines qui jamais vont combler son propre cœur. Jérémie 2, 1 à 2. Quel malheur a fait mon peuple! Ils m'ont lâché, moi, la source d'eau vive, et ils se sont construits des citernes lézardées que l'eau ne peut pas contenir. Dans cette deuxième étape, Saint Jean passe d'un regard plus extérieur du péché au cœur même du péché, où l'on entre dans la communion de cœur avec Jésus qui séduit mon cœur, où l'on ne peut pas ne pas pécher. Mais le Seigneur dit, oriente ton cœur vers ça, s'il te plaît. Je sais que ça semble dur le dimanche matin, mais c'est le signe de la résurrection. Parce qu'en réalité, le Seigneur nous a déjà accordé une vie unie à la sienne, qui a la saveur de son amour, vraiment. Il nous a déjà donné ça. Au moins, espérez ça. Espérez dépasser les réactifs pour pouvoir vivre dans ce qui se passe dans le cœur de l'autre, pas les méchancetés qu'il vit, mais la source de ces méchancetés que c'est, son cœur est encore traversé par trop de diabolons, par trop d'aspirations fausses, et il ne peut pas, avec ses aspirations, faire autrement. Ce n'est pas un rêve de dire que Henri VIII, il est allé si loin qu'à part le décapité, il s'est séparé de l'Église catholique. Le problème n'était pas la femme, la nouvelle femme, Anna Bolena, tout ce machin, non? Le problème, c'est qu'il a inventé sa propre Église, non? Et qu'il a dit à tous les cardinaux et évêques anglais, etc. Non, non, maintenant, le chef de l'Église d'Angleterre, c'est moi. Il est allé très loin, non? Mais Thomas More encore croyait qu'au cœur de cet homme, au cœur de l'intérieur de l'autre, peuvent jaillir des sources d'eau vive. Dire ou bien on te met mon favet, ou bien on entre dans un niveau de profondeur beaucoup plus grand. Pour ceux que vous n'êtes pas d'Avignon, Montfavet, c'est le lieu du psychiatrique, non? On te met à Montfavet, ou est-ce qu'il y a un niveau de profondeur auquel le Seigneur veut vraiment nous introduire? Et cela est tellement vrai, est tellement beau. Et alors, à partir d'ici, on passe dans le verset 10, au deuxième point, que c'est celui de la relation. Et Saint Jean nous fait approfondir la relation. Pourquoi? Parce que, du coup, on avait vu dans la première étape que la relation... j'ai ici toute la lettre, ici, vous voyez, c'est facile. Hein? Dans une seule page, j'ai toute la lettre. Non? Mais pourquoi? Parce qu'effectivement, Saint Jean, déjà dans la première étape, nous parlait de la relation de l'autre comme quelque chose d'essentiel. Dans cette deuxième étape, il va nous parler avec des versets très, très, très significatifs. À partir du verset 11, déjà dans le verset 10, il dit « Voici comment se manifestent les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, et pas davantage celui qui n'aime pas son frère. » Autrement dit, pour que ces choses se passent, il faut croire que le Seigneur me purifie totalement, de la relation à l'autre. Je répète, la relation à l'autre pour Saint Jean n'est pas une espèce de fardeau supplémentaire qu'il faut vivre, mais une école pour que les merveilles du Seigneur nous rejoignent. Je l'ai déjà dit dans la première étape, je l'ai dit dans la deuxième. La relation à l'autre pour Saint Jean n'est pas un fardeau qu'il faut aimer les uns les autres, etc., non? Comme une espèce de rentintin, non? Bon, voilà, le papa, quand il y a les cinq enfants qui se bagarrent tous, non? Aimez-vous les uns les autres, non? C'est pas comme ça que Saint Jean parle. Ma relation à l'autre détermine la connaissance que j'ai de Jésus. Et c'est pour cela que ça suit, non? Tel est le message que vous avez entendu depuis le commencement, aimons-nous les uns les autres. Alors, il dit immédiatement, « Ne soyons pas, verset 12, comme Caïn. Il appartenait au mauvais et il égorgea son frère. Et pourquoi l'a-t-il égorgé? Parce que ses œuvres étaient mauvaises, au contraire, celles de son frère étaient justes. Ne soyez pas étonnés, frères, si le monde a de la haine contre vous. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons nos frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. » Alors, qu'est-ce que Saint Jean est en train de dire? Dans la relation de l'autre se joue si je passe à une vie unie à Jésus ou non. Et qu'est-ce que ça donne? Ça donne quelque chose de très beau, lorsqu'on commence à les percevoir, c'est que dans l'offrande de notre cœur se joue la capacité de découvrir vrai dans le cœur de l'autre. Caïn et Abel. Quel est le problème de Caïn et Abel? Vous l'avez lu? Vous souvenez un peu? Abel faisait des offrandes et Caïn faisait des offrandes. OK? Il y a des offrandes agréables à Dieu et des offrandes désagréables à Dieu. Non, et c'était agréable à Dieu aussi. Mais Caïn, sa conscience, lui faisait voir que ce qu'elle faisait ne lui servait à Dieu de rien. Et il découvrait que son frère, tout marchait bien, et chez lui, rien ne marchait. C'est très important, ça. Parce que ce niveau du cœur auquel Saint Jean veut nous inviter... Et celui de l'agradabilité dont on parlait hier, d'être agréable à Dieu. Et alors, pourquoi cela est si important? Parce qu'effectivement, le problème entre Caïn et Abel, c'est un problème qui renvoie à comment nous voyons que nos ofrendes les sont agréables à Dieu. Alors, un exemple que j'ai dit toujours, le temps avance, c'est une messe. À la fin des rencontres, il y avait beaucoup plus de gens, une centaine de personnes, avec les familles qui sont venues, non? À la fin d'une retraite, d'une rencontre des familles. Et alors, il y a la messe finale, je préside là-bas, non? Et tout le monde bien, les familles toutes contentes de ce climat, l'effervescence de la joie, etc., non? Et alors, il arrive au moment des offrandes, et il arrive en couple avec leur petite fille, non? C'est comme la fille d'hier, non, Zélie, à peu près, c'était ça. Et ils arrivent tous les deux. Et voilà, les papas, cravate, bien habillé, etc. Ils parlent, Seigneur, nous t'offrons, il a fait un tas d'offrandes au Seigneur, non. Après, il y a la maman, qui aussi un autre discours impressionnant pour voilà, toutes ces choses qu'on fait dans ces trucs publics dans lesquels il faut quand même dire de belles choses, non. Et puis, il y a la petite, qu'elle était commandée de faire une petite offrande au Seigneur, non? Elle avait un bouquet de roses, non? Et elle dit, Seigneur, elle avait bien appris le papier, hein? Seigneur Jésus, je t'offre ces roses, signe de mon amour pour toi. Alors, elle offre les roses, et moi j'étais le prêtre, donc j'étais censé aller prendre les roses, non? Parce que quand tu offres quelque chose, tu l'offres vraiment pour du vrai, quoi, non? Ah, je vais prendre les roses. Non, elles sont miennes! Elles sont miennes! Ah, oh. Et alors, je commence à voir que, je ne sais pas ce qu'on fait dans ces cas-là, non? Je regarde les papas, ils commencent à devenir rouges. Zélie, donne-lui les roses au prêtre! Non? Oh, miennes! La maman commençait à lever la main avec beaucoup de tendresse, mais ça tremblait la main avec beaucoup de tendresse, non? Ah, hop! Et à la fin, non? Après une bataille campale, non? Il y avait les pétales par terre, elle fait un acte d'abandon total d'elle-même, non? Et elle abandonnait les tiges avec les épines, là, au prêtre, non? J'ai dit, maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça, non? Je la mets sur l'autel, un peu éparpillée comme ça, non, non? Voilà, les offrandes, parce que le cœur n'arrive pas à vivre pleinement ce qu'il est hors de l'offrande. C'est dans l'autel du cœur, cette phrase n'est pas une poésie, c'est dans le catéchisme de l'Église catholique, dans la partie sur la prière, que c'est le Père Corbon au Liban qui l'a fait, non? Il disait, l'autel du cœur, dans l'autel du cœur se joue un cœur habité totalement par le Seigneur, et ça à la saveur de Dieu, ou un cœur qui s'abandonne après un acte incroyable de don de soi-même, non? C'est-à-dire qu'il ne reste rien, non? Sauf les épines et les tiges. Mais attention, voyez pourquoi Caïn. Aucune de nos offrandes sont à la hauteur de ce que Dieu mérite, ni celle d'Abel, ni celle de Caïn. Moi, quand j'ai fait la consécration, avec Monseigneur Cathenos, là, debout, je me suis mis par terre avec mes sœurs, comme ça, don total de moi-même. Là, on se met par terre vraiment comme pour qu'il nous passe dessus, ok? Mais après, 5 minutes plus tard, j'étais déjà debout, non? Et mon abandon va voir l'abandon, non? Pourquoi cela est si important dans la relation à l'autre? Parce que lorsque on commence à offrir la vie, on commence à recevoir immédiatement le fleuve d'amour du Seigneur. Si on n'ose pas entrer dans l'offrande de la vie, ça c'est le baptême, hein? Plus encore, ça c'est l'Ancien Testament, Deutéronome 6,4. Vous savez parfaitement qu'est-ce qu'il y a en Deutéronome 6,4? Vous ne le savez pas? Monseigneur va vous... Parce qu'il enseigne ça depuis que je le connais. Hein? Vous ne savez pas ce que c'est Deutéronome 6,4? Shema Israël. Adonai Elohenu. Adonai Echad. Ça s'est pourfrimé un peu, non? Vous savez ce que j'ai dit? Vous savez ce que j'ai dit? Écoute, Israël, le Seigneur est notre Dieu. Le Seigneur est un. D'abord notre Dieu, et après un. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton. De tout ton. De tout tes. C'est-à-dire, tu offriras toute ta vie au Seigneur. Ça, c'est déjà dans l'ancienne loi. Hein? Et Jésus le reprend dans la nouvelle. Autrement dit, consacrez-vous au Seigneur. Mais la différence, c'est consacrer, et on ne sait pas trop où est-ce que ça finit, à savoir qu'il est l'époux qui va donner encore davantage. L'autre jour, je voyais que dans le groupe de jeunes de l'Emmanuel qui sont là, derrière dans la petite veste, il y avait marqué « Give all et get more ». Il faut savoir anglais, non? Ça, c'est le Nouveau Testament. Give all and get more. Mais les deux choses sont importantes. Pas seulement give all. Ah, je sais que vous ne savez pas anglais. Là, je frime aussi un peu. Non? Donne tout et tu recevras plus. Mais attention, c'est très dommage des chrétiens qui disent qu'ils donnent tout. Après, ils ne donnent pas tout non plus. Hein? Et qui donnent tout et qui ne savent pas recevoir plus. Parce qu'effectivement, perdre du temps pour recevoir plus fait partie de ce dynamisme. C'est pour ça que le silence, le cardinal Saga qui parle tant de silence, le silence c'est pour recevoir plus. Parce que si mon cœur ne reçoit pas, il y a quelque chose qui se bloque en route. Et c'est très important parce qu'effectivement, la petite a fait l'offrande totale de ses tiges et ses épines, non? Mais les prêtres, la deuxième partie est plus importante encore. Et moi, parce que je vous avoue que quand j'ai vu la petite avec ses roses comme ça, si massacrée, non? Et je me voyais moi-même. Parce que je me consacre tous les jours, mais en cours de route, je reprends un tout petit peu les machines, non? Mais effectivement, le prêtre dit immédiatement, ça m'est accroché de telle façon que pour moi, c'est un avant et un après de ce moment. Le prêtre, dans la troisième prière eucharistique, que j'aime beaucoup, il dit, reconnais dans l'offrande de ton Église la victime immolée pour notre salut. Qu'est-ce que ça veut vouloir dire? Ça ouvre les yeux à ce que Dieu voit en toi, parce que même les épines et les tiges mal fichues, le Seigneur, il reconnaît l'offrande de son Fils. Ce n'est pas essentiel. C'est celle qui permet que, effectivement, vous vous souvenez de qui est Claire Lino, Etilesum. Alors, Etilesum, je ne vais pas faire toute l'histoire ici, mais ces histoires concrètes sont pour voir que ce n'est pas, ont des conséquences comme chez Thomas More dans nos histoires concrètes. Qu'est-ce que fait Etilesum? Pas cette vécu de la vie éternelle si belle qu'on voit dans ses écrits. Il dit, quand je prends la vie tout entière, même avec la mort qui arrive, je perçois une intégration de mon cœur incroyable. Autrement dit, quand je fuis de la mort qui arrive, j'ai la sang éparpillée. Quand je prends la vie tout entière, même avec la mort qui arrive, je perçois l'unification de mon cœur. Ça c'est la vie éternelle. C'est-à-dire, ça c'est n'ayez pas peur de l'amour. Ça veut dire regarder l'amour avec Jésus. Ça veut dire croyez que le Seigneur, par sa résurrection, nous fait vivre une vie qui dépasse l'amour. Mais, attention, ça lui donne à Etilesum une lumière par rapport à l'autre, que c'est ce que nous sommes en train de voir, incroyable. Quelle lumière lui donne par rapport à l'autre? Elle dépasse les réactifs comme Thomas More, exactement pareil. Avant, quand j'ai parlé de cet exemple, je ne savais pas qu'elle pouvait partir, était dans le ghetto. Je vous parle d'elle comme si vous la connaissiez. Si que vous ne la connaissez pas, je ne vais pas. Vous la lirez déjà, il y a un bouquin qui s'appelle La Bible versée, c'est parce que c'est le temps avance. Non, non, mais pour moi, c'est très important. C'est une femme juive qui n'a pas été baptisée, Je parle d'elle avec beaucoup d'enthousiasme parce que ça me plaît son bouquin, mais spécialement parce que le pape Benoît XVI, le jour qu'il a pris l'hélicoptère, non ? Vous vous souvenez quand il a pris l'hélicoptère, hein ? Bon, c'est le jour qu'il a pris l'hélicoptère, dans la messe, l'homélie dernière de la dernière messe qu'il a fait en tant que pape, il a dit, il a mis « Ethylesum » au centre de son discours. Donc ça veut dire que si lui l'a dit, quand même, au moment où tu dis les choses essentielles avant de partir, ça veut dire qu'il y a quelque chose de très important. Qu'est-ce que s'y disait cette femme ? Elle pouvait partir, elle avait un billet pour partir aux États-Unis. Ses amis hollandais qui étaient aux États-Unis lui avaient acheté un billet pour pouvoir partir et elle n'a pas voulu. Donc elle n'est pas morte à Auschwitz par hasard ou parce qu'il n'y avait pas d'autre remède, elle avait le remède. Elle n'est pas restée, elle a voulu rester. Je répète, pas baptisée, mais baptisée de désir, no? Comme on le disait. No? Mais qu'y avait-il derrière ça ? Une chose impressionnante par rapport à l'autre. Pourquoi ? Parce qu'elle disait, faites attention à ça, hein? Elle disait, ce pauvre nazi croit que pour être quelqu'un, doit m'écraser. Mais il attrape de l'eau. Qu'y a-t-il derrière cette vision ? Qu'à fur et à mesure que tu inaugures cette deuxième étape, qui passe par l'offrande, qui passe par ce cœur qui traverse la peur de la mort, qui passe par l'espérance dont je vous parlais tout à l'heure, tu commences à voir l'autre avec les lunettes de Dieu. Moi, devant un nazi qui va me tuer, j'ai un certain énervement qui va me traverser partout. Et si je peux lui aider à partir, lui, avant moi, non ? C'est la réaction. Peut-on dépasser la réaction ? Thomas More. Peut-on dépasser la réaction ? O sea, peut-on inaugurer un nouveau regard sur l'autre ? C'est ça ce que dit Saint Jean ici. Parce qu'à fur et à mesure qu'on entre dans cette deuxième étape de relation à Jésus, dans laquelle son amitié touche ma chair, je commence à découvrir aussi que dans le cœur de l'autre, derrière les méchancetés de l'autre, il y a une vie divine non connectée, une citerne lézardée et une incapacité d'entrer dans les sources même d'amour qui me traverse à moi. Et qui, si ne me traversait pas à moi, je serais exactement comme lui. Ce niveau-là est le cadeau que le Seigneur veut nous faire dans notre vie concrète. Mais il nous dit, pour entrer dans ce niveau, les phrases sont très, très significatives, non ? Il dit, « Celui qui n'aime pas son frère demeure dans la mort. » C'est plus fort qu'avant. Hier, on disait, c'est très important la relation pour rencontrer Dieu. Ici, il dit, celui qui n'aime pas son frère, il est mort. Autrement dit, il n'a pas les sources de vie qui le traversent. Tu ne peux pas voir ce qui se passe dans le cœur de l'autre sans être introduit dans cette dimension. Tu ne peux pas. Et c'est pour ça que les conflits, il n'y a pas moyen de s'en sortir. Parce qu'on ne s'en sort pas avec nos armes à nous. On peut s'en sortir quand je vois que je suis un pécheur aimé par le Seigneur, je peux au moins regarder l'autre avec une profondeur totalement nouvelle. C'est comme une échographie. J'aime beaucoup l'échographie. Pas une échographie purement physique, quand la maman enceinte lui présente l'enfant, ça pleure, non ? C'est tellement beau, non ? Mais pas seulement ça. Une échographie de ce qui se passe dans l'autel de l'âme de l'autre. Cela est libérateur. Ça donne des relations complètement nouvelles avec toute personne. Et ça te permet aussi, même s'il y a des conflits, bien sûr qu'il y a des conflits. Si je vais faire la pastorale parce que je sais que les personnes, que les jeunes que le Seigneur m'a confiés ont besoin d'un chemin de retraite, d'approfondissement en silence, et l'autre confrère veut faire simplement une fête purement extérieure, je vais défendre, sauf si on me commande par obéissance le contraire, qu'il fasse ses chemins. Autrement dit, des conflits, il y en a tout le temps. Mais qu'est-ce que c'est différent, les conflits qui m'agacent et que j'entre dans la pure réaction, à les conflits qui te permet de découvrir ce qui se passe dans le cœur de l'autre et les met dans le regard de Dieu. Ça, c'est Saint Jean. Troisième point de cette deuxième étape, il y a encore, je suis encore dans le deuxième point. Et quiconque a de la haine contre son frère est un assassin. C'est fort, verset 15, hein, chapitre 3. Si tu as la haine contre quelqu'un, tu es un assassin. Un meurtrier, disant de la traduction de la Bible de Jérusalem. Pourquoi? Parce que tous nous sommes responsables de la vie intérieure du cœur de l'autre. Tous. On est membre du même corps et on ne peut pas s'en ficher de ce qui se passe dans le cœur de l'autre. Ça, c'est Thomas More. Si ma mort servirait pour que moi et mon ami Henri VIII, on se promène ensemble dans les allées du paradis, Paradise Avignon. Si ça pouvait servir. Et c'est là, je répète, on ne parle pas qu'aimer les autres, il faut aimer dans notre société. Non, est-ce que ma connaissance de Jésus passe par cela? Ma connaissance de Jésus passe par cela. Parce qu'effectivement, que se passe-t-il dans le cœur de l'autre? Et alors, clairly, pardon. Dans la relation à l'autre se joue aussi notre connaissance de Jésus dans les pardons. Je répète, c'est différent les pardons. Quand on m'a fait une offense, imagine que tu es en rendez-vous et l'autre arrive 10 minutes plus tard. Ah, tu te fâches un peu, mais après on prend la bière ensemble, non? Ça, ce n'est pas un pardon trop grave, non? Mais quand on t'a cassé la vie, tu as un enfant qui va à la paroisse et tu trouves un prêtre pédophile et il casse la vie de ton enfant, pardonne-lui. Si ça passe pas par injustice d'abord, parce que la justice est nécessaire, ou une femme qui t'a trouvé un prêtre que dans la confession l'a amené là où il fallait pas. Non, pardon, miséricorde, non, miséricorde. S'il n'y a pas de justice, il n'y a pas miséricorde. Ça, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jean-Paul II dans la lettre qu'il a écrit les victimes. No? Ils vont être pardonnés, les bourreaux et les victimes qu'ils avalent. Je dis ça parce que ça, c'est Saint Jean. Autrement dit, on est dans les rêves. C'est pour ça que c'est très important. Peut-on pardonner? Non. Quand on m'a cassé la vie, je ne peux pas. Et j'ai fait toujours l'exemple de ce Clerly parce que c'est simplement une femme bouddhiste qui on lui a tué ses parents, on lui a tué son frère, on lui a tué son mari, ça fait gros. Elle est entrée dans un camp de concentration enceinte et avec un enfant de 2 ans, ça fait gros. Et elle essaye avec son bouddhisme s'en sortir, ça ne marche pas. Et alors elle a pris comme témoin de sa rage les dits des occidentaux. Et en prenant comme témoin de sa rage les dits des occidentaux, elle sentait un courage bizarre qu'elle ne savait pas nommer. Elle lit la lettre de Jean-Paul II dont je vous ai parlé hier, la Dives in Misericordia, par hasard, à l'est, no, où elle habite, et elle découvre que ce courage bizarre qui l'accompagnait, c'est les dits de Jésus-Christ. Il existe, hein? Le Dieu capable de nous faire avancer et transformer nos vies existe. Le Paradise Avignon existe. Mais après, il y a quelqu'un qui lui pose la question, il venait à témoigner à la chapelle Santa Marta, une centaine de jeunes, no? Et à la fin, il lui pose la question, et si vous revenez au Cambodge, vous rencontrez celui qui a tué votre papa, maman, et frère et époux, est-ce que vous le pardonneriez? Silence incroyable, non? Et j'ai dit, oh là là, je voulais fusiller la personne qui a posé la question, non? Mais voilà, et en silence. Et après, à un moment donné, elle dit, non, je ne peux pas le pardonner. Normal, hein? Mais je disais quand même, elle pouvait arrondir la chose, parce que je l'ai fait venir pour témoigner du christianisme, non? Et s'il nous a laissé vraiment, non, je ne peux pas le pardonner. Silence encore. Et après quelques minutes, m'a donné la leçon la plus grande, qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Hein. Elle m'a dit, moi, je ne peux pas le pardonner, mais je me décentre de moi-même et je me tourne vers celui, lui qui les a déjà pardonnés. Je ne peux pas. C'est très important ça, parce que c'est de ça qu'on parle. Dans la relation à l'autre, se joue la connaissance de Jésus, jusqu'où il est fort dans nos vies. Sinon, on a un petit Jésus analgésique pour avoir un petit décalement quand je me sens en dépression. Et c'est beau, hein? Ce n'est pas qu'il ne faut pas avoir ça, hein? Il faut avoir ça. Mais ça, c'est Jésus. Ça, Dieu, un petit analgésique pour les jours un petit peu que j'ai la déprime, non? Une veilleuse et que ça me donne un peu de souffle, non? Non! Si on arrive au ciel et on dit à Jésus que c'est ça, je crois qu'il va nous passer par la porte et par derrière, mais il va dire, mais oui, ça, on parle de la société qui est la nôtre. On ne peut pas miséricordier les gens comme ça, quand on laisse dans les marges de la route des morts partout qui ne peuvent pas s'en sortir. Ça, pour moi, c'est radical, c'est de ça qu'on parle. Et effectivement, quand on lit ça, on voit le troisième point, je vais finir, mais on continue à le lire, non? Que c'est que nous sommes assurés. Si notre cœur nous juge, il y avait un prêtre ami, que pour moi c'est un témoignage de sainteté incroyable de Madrid, il habite maintenant, il était l'exorciste de Madrid, maintenant il reçoit le soir les pauvres qui n'ont pas de papiers, parce que dans les auberges municipaux, il faut que les gens aient des papiers. Mais ceux qui n'ont pas de papiers, vraiment déjà les pires de tous, il les reçoit toute la nuit, il dort avec eux, etc. Vraiment, c'est un homme incroyable, non? Et il disait, quand tu fais l'option de la charité, tu es toujours en dette. Ça, parfois, de ce que je vous dis, on peut sortir tous un peu déprimés, non? Parce qu'on est toujours en dette. Toujours. Si tu enlèves la charité de la tête, ça va bien. Mais si tu mets la charité vraiment dans ton cœur, tu es en dette. Parce qu'il y a toujours tellement de choses que tu ne fais pas. Tant d'SDF que tu laisses être SDF, au pire encore. Tant de jeunes que tu vois qui vont au suicide et que tu ne t'occupes pas d'eux parce que tu ne sais pas comment faire. Tant de situations autour de nous qu'il faudrait faire, mais on ne fait pas, on fait ce qu'on peut, non? Tu es en dette. Mais il dit Saint Jean, effectivement, qui a cette espérance en lui, il est en dette. Mais si notre cœur nous juge, il est plus grand que notre cœur, et il nous fait avancer, parce que quand tu orientes ton cœur vers la vérité, tu es rejoint par la plénitude de l'amour de Jésus qui te fait aller toujours plus loin. Cela est vrai. Je voyais pas que Thérèse de Calcutta prenait quelques mourants, mais il y avait des mourants qu'elle ne pouvait pas prendre. C'est tellement le boulot. Quand tu es dans la charité, tu es dans la souffrance continue. Mais elle est tellement rejointe d'un amour plus grand qu'elle. Cela est la deuxième étape. Et ça passe à la troisième étape, de laquelle je vais effleurer seulement des mots, parce qu'il faut aller à la messe. C'est au pied de la croix, devant Jésus crucifié, il y avait Marie, la mère de Jésus, Marie-Madeleine, les disciples que Jésus aimait. Et au pied de la croix, on comprend beaucoup plus de choses encore. À Gethsémani, on entre dans le paradis. Au pied de la croix, on commence à découvrir des merveilles auxquelles le Seigneur veut nous introduire tous. Parce que chacune des paroles que Jésus dit sur la croix, quand je les entends avec mon regard à moi, je comprends presque rien. Quand je les entends avec Marie, j'ai fini avec la sœur dominicaine que le père Carr elle a embauchée parce que la pauvre est partie en voiture, il a fait descendre de la voiture, non? Vous vous souvenez, non? Hier à Romé, non? Et alors la sœur dominicaine nous a parlé du cœur de Jésus, du monastère de dominicaine, du cœur de Jésus et de Marie, non? Et que, pour moi, il y avait une chose très, très belle, non? C'est qu'elle disait, Marie aide à comprendre le cœur de Jésus. Pour moi, c'est très important, ça. Chacune des paroles de Jésus comprises avec le regard de Marie, ça fait déplacer le curseur. Ça, c'est du langage informatique. Ouais. Des choses qui semblaient impossibles aujourd'hui commencent à se dilater demain et tu vois plus loin, tu regardes plus loin, tu trouves que servir Jésus dans les frères qu'il te confie, c'est un grand bien qu'il te fait. J'ai soif. Et un cœur assoiffé, que je lui donne la vie avec mon être, et que je lui donne la vie dans les frères et sœurs qu'il me confie. Et c'est tellement grand ça, Sainte Marie impossible. Hein? Mais dans ce climat de lui être agréable, on commence à découvrir la merveille d'un cœur qui a soifé de ce que je pauvrement peux faire pour lui, même si c'est quatre tiges et quatre épines. Et il me dit merci. Et quand il me dit merci, j'ai envie de me donner encore davantage. Et le curseur se déplace. Je crois que tous les saints que nous connaissons, Thomas More, Marguerite Marie Alacoque, Claude la Colombière, Saint Dominique et Sainte Thérèse de Calcutta, toutes ont déplacé progressivement les curseurs. Ça ne vient pas d'un coup. Mais cette espérance d'y arriver le permet d'être rejoint par celui qui fait de nous les instruments par lesquels il aime notre monde de l'intérieur. Amen.